Voici une question dont la réponse pourra changer le cours de votre vie. Comment pouvons-nous faire face à la vie et à la mort sans avoir peur? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse encourageante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On va sûrement recevoir un enseignement encourageant pour tous les croyants aujourd'hui, suite aux questions qu'on va poser aux Saintes Écritures. Et je pense que ces réponses vont aussi encourager les gens qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu à se tourner vers lui pour le recevoir. Voici nos questions. Y a-t-il des choses qui arrivent par hasard? Comment pouvons-nous faire face à la vie et à la mort sans avoir peur? Quels sont ceux qui sont appelés de Dieu? Y a-t-il des gens qui sont obligés de rester dans leur état de perdition? Que signifie la prédestination? Les croyants peuvent-ils être certains que Dieu va pourvoir à tous leurs besoins? Y a-t-il quelqu'un qui puisse accuser un élu de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui puisse nous séparer de l'amour de Christ? Restez avec nous. On est sur le point de recevoir tout un enseignement de la parole de Dieu par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il touche nos cœurs bien particulièrement aujourd'hui. Prions. Ô mon Dieu, je viens te demander, avec tous nos auditeurs, de toucher nos cœurs aujourd'hui, de les toucher comme toi seul tu peux le faire. Parle-nous, Seigneur, fais-nous comprendre la profondeur de ton amour. Fais-nous comprendre tes saintes écritures et aide-nous à les mettre en pratique quotidiennement pour faire ta volonté, ô Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que les croyants sont sujets à la souffrance. De plus, nous avons vu que la terre est assujettie à la vanité, c'est-à-dire à la corruption. D'ailleurs, une observation de la nature confirme cela. Même dans un endroit paradisiaque, nous trouvons des ronces, des épines et de la corruption, tels qu'un arbre mort qui pourrit ou encore un oiseau mort. Finalement, nous avons vu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous vous avons quitté sur ce thème que nous reprenons aujourd'hui. Chers amis, débutons notre lecture de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, chers amis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Dieu qui fait concourir toute chose au bien des siens. Il n'y a aucun accident dans la vie des croyants. Rien n'arrive par hasard. Joseph a pu jeter un coup d'œil sur sa vie passée, remplie d'événements malheureux, de désappointements et de souffrances, pour ensuite dire à ses frères, qui étaient responsables de ses malheurs, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse, chapitre 50, verset 20. Je suis certain que nous, les enfants de Dieu, pourrons un jour regarder en arrière et dire, « Tout ceci arriva pour mon bien. » Même Job, au milieu de sa grande souffrance, a continué d'espérer en Dieu. C'est ce genre de foi dont nous avons besoin, mes amis. Nous savons qu'il fera concourir toute chose à notre bien, car il contrôle tout. Cependant, nous nous écrions souvent, « Pourquoi cela nous arrive-t-il ? » Lors d'un tremblement de terre qui a secoué San Francisco, il y a quelques années, une chrétienne marchait parmi les ruines et les débris avec un grand sourire. Une amie lui demanda, « Comment peux-tu sourire à pareil moment ?» Elle répondit, « Je me réjouis d'avoir un Dieu qui peut ébranler le monde. » C'est merveilleux de pouvoir faire face à la vie, à la mort, sans avoir peur. Paul aussi pouvait faire face à l'avenir sans broncher. « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Actes chapitre 21, verset 13. « Nombreux sont ceux d'entre nous qui aimeraient en arriver à une telle consécration. » Notez que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. De nombreuses personnes éprouvent de la difficulté à accepter cela. Les appelés sont ceux qui ont non seulement reçu une invitation, mais qui l'ont acceptée. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui connaissent l'amour de Dieu. Paul décrit trois groupes de personnes que nous retrouvons encore dans notre monde contemporain. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 23 et 24. Premier groupe, les Juifs, qui s'appuyaient sur leur religion ainsi que sur leur rituel religieux. Pour eux, la croix était un scandale. Deuxième groupe, les Grecs, les païens, qui s'appuyaient sur la philosophie, la sagesse humaine. Pour eux, la croix n'est pas une chose à prendre au sérieux. Et finalement, troisième groupe, les appelés, qui forment le groupe de personnes juives ou grecques qui furent choisies, mais pas à cause de leur religion ou de leur sagesse. Dieu les a appelés. Pour eux, la croix est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Les appelés ont entendu l'appel de Dieu, et c'est ce qui compte. Personne n'est obligé de demeurer dans son état de perdition. Voici une illustration avec des tortues. Supposons qu'il y ait 10 tortues dans un marais. Tu dis aux tortues, « J'aimerais vous apprendre à voler. » 9 des tortues ne sont pas intéressées par ta proposition. Nous ne sommes pas intéressés. Nous sommes à l'aise dans notre environnement marécageux. Une tortue dit, « Oui, j'aimerais voler. » C'est elle qui est appelée, et c'est elle qui apprend à voler. Cela n'a rien à voir avec les autres tortues. Elles sont des tortues, car elles sont nées tortues, mes amis. Les perdus le sont parce qu'ils le veulent. Personne n'est obligé de demeurer dans son état de perdition. Ils sont perdus parce que c'est leur choix. Un jour, un garçon a demandé à devenir membre d'une église. Les anciens, les responsables de l'église, lui ont accordé une entrevue. Ils lui ont demandé comment il avait été sauvé. Le jeune homme a répondu, « Dieu a fait sa part et j'ai fait la mienne. » Doutant de sa doctrine, ils ont sondé davantage. Quelle était la part de Dieu et quelle était la tienne? Il a donné une bonne explication. « La part de Dieu a consisté à me sauver. Ma part fut de pécher. Je me suis enfui de Dieu aussi vite et aussi loin que mon cœur et mes jambes, pécheurs, me l'ont permis. Mais le Seigneur s'est mis à ma poursuite tant qu'il ne m'a pas rattrapé. Mes amis, c'est ainsi que j'ai aussi été sauvé. Ceci ne contredit pas le fait que quiconque croit ou quiconque le veut est sauvé. Les élus sont les quiconques croient et les non-élus sont les quiconques qui ne croient pas. Tout ceci se fait selon le plan de Dieu. Et mes amis, si votre esprit n'est pas réconcilié au dessein et à la volonté de Dieu, il est temps que vous le fassiez, car vous habitez son univers qu'il a créé. J'ignore pourquoi il a fait une planète sphérique plutôt qu'une cubique. Il ne m'a pas consulté sur la question. Il a fait la planète sphérique car il le voulait ainsi. Mes amis, Dieu va accomplir son dessein car il a la sagesse et la puissance pour le faire. Tout ce que Dieu fait est bien. Ne critiquez pas Dieu en disant qu'il n'a pas le droit de sauver quiconque désire être sauvé. Il a le droit de le faire. Il est juste et amour, et tout ce que mon Dieu fait est bien. Siméon, un théologien, a affirmé dans son sermon sur Romains chapitre 8 qu'il prêchait sur la doctrine de l'élection pour trois raisons. La doctrine frappe premièrement l'orgueil, deuxièmement la présomption, et troisièmement, le désespoir à la racine. J'aime cela. Oui, la doctrine de l'élection frappe l'orgueil, la présomption et le désespoir à sa racine. Mes amis, la doctrine de l'élection ne fait pas de place pour l'orgueil. C'est le travail de Dieu, uniquement de Dieu. C'est le travail de Dieu, sa sagesse est manifestée et son plan s'accomplit. La volonté de Dieu s'accomplit à partir de l'éternité comme si elle était un rouleau compresseur. Vous ne pouvez pas mettre des bâtons dans les roues du plan de Dieu. En fait, vous feriez mieux de vous joindre à sa cause, d'accepter sa volonté concernant votre vie. Poursuivons notre lecture, Romains 8, cette fois les versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce petit mot « car » nous ramène au verset 28. Ce petit mot précise que Dieu parle ici des appelés, les prédestinés. La prédestination ne réfère jamais aux perdus. Ce terme n'est jamais employé en parlant d'eux. Quiconque parle de prédestination à la perdition n'est pas biblique. Dieu l'utilise dans le sens des sauvés, de ceux qui ont répondu à son appel. La prédestination signifie que Jésus amènera les sauvés au ciel. Il vous amènera au ciel, c'est son œuvre. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Autrement dit, cette section merveilleuse traite de la sanctification. Cependant, Paul ne mentionne pas la sanctification. Pourquoi? Parce que c'est le travail de Dieu dans le cœur et la vie du croyant. C'est le but éternel de Dieu, c'est son dessein, son plan merveilleux. Cela signifie que lorsque le Seigneur, qui est le grand berger, le bon berger, le berger par excellence, se met en route avec 100 brebis, il arrive à destination avec 100 brebis. Il n'en perdra pas une seule, chers amis. Rappelez-vous la parabole à ce sujet, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15. Elle raconte l'histoire d'un bon berger qui représente le Seigneur Jésus. Une brebis s'est perdue en s'écartant du chemin. Il aurait pu dire, « Bien, oublions cette brebis, il en reste 99 en sécurité dans la bergerie. » C'est une bonne moyenne au bâton, n'est-ce pas? Quiconque élève les brebis sait que si tu te rends au marché avec 50% des agneaux nés cette année-là, alors tu te tires bien d'affaire. Mais nous avons ici un berger exceptionnel. Il ne se contente pas d'arriver à destination avec 99 brebis. S'il justifie 100 brebis, il va glorifier 100 brebis. Je vais traiter du sujet très personnellement. Un jour, notre divin berger comptera ses brebis. 1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99. Oh, où est donc passé Régent Joly? Il semble qu'il se soit perdu. Laissons tomber, car de nombreuses personnes ont pensé qu'il ne se rendrait jamais jusqu'au ciel. Mes amis, je loue Dieu de ce qu'il n'abandonnera jamais Régent Joly. Le berger va se mettre à sa recherche. La doctrine de l'élection signifie que le berger arrivera au domicile céleste avec 100 brebis. Ceci n'est pas une doctrine terrifiante, c'est une doctrine merveilleuse. Cela signifie que Régent Joly sera là. Oui, mes amis, cela signifie que vous y serez aussi, si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, le bon berger. Cette doctrine est très réconfortante dans nos temps d'incertitude. Lisons le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Absolument rien, mes amis. C'est si merveilleux. Que pouvons-nous y ajouter? Qui sera contre nous? Dieu est avec nous. Personne ne pourra nous accuser en présence de Dieu. Verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu répondra à tous nos besoins après avoir livré son Fils pour nous. C'est merveilleux. Il n'a pas épargné son propre Fils. Il a pourtant épargné Isaac, le fils d'Abraham, mais pas son propre Fils. Puisqu'il a envoyé son Fils mourir pour nous, il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Quelqu'un peut s'inquiéter et dire « Je crains de ne pas être capable de tenir le coup ». Dieu a promis qu'il le fera pour vous. Il vous gardera. Ces brebis sont en sécurité, mes amis. Ce n'est pas parce que ce sont des brebis intelligentes. Ceux qui élèvent des moutons savent que ces animaux sont stupides et sans défense. Ils ne peuvent se défendre avec des crocs et des griffes. Les brebis ne courent même pas vite. Ce sont des animaux sans défense et sans ressources contre l'ennemi. Si une brebis peut se lever et chanter « Tout est bien », c'est parce qu'elle a un berger exceptionnel. Ce n'est pas parce qu'elle est futée ou puissante. Le texte précise « Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Dwight Moody expliquait ceci avec une illustration simple. Vous vous rendez chez un bijoutier qui vend seulement des pierres de qualité exceptionnelle. Il vous montre le plus beau diamant, une pierre de qualité taillée avec le plus grand soin. Le propriétaire vous dit, « Elle est à vous. »« Tu me fais cadeau de cette merveille ?» répondez-vous étonné. « Oui, je te la donne. » Si un bijoutier faisait cela, hésiteriez-vous à lui demander un emballage afin d'éviter de la perdre en l'apportant chez vous? Mes amis, puisque Dieu a donné son Fils pour vous, ne pensez-vous pas qu'il va vous donner tout ce dont vous avez besoin dans cette vie et dans l'au-delà? Versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Les élus sont les pécheurs que Dieu a justifiés. La puissance divine les protège. Qui les accusera? Personne ne les condamnera, car le Seigneur Jésus est mort et ressuscité pour eux. Voici les quatre aspects de l'œuvre du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a annulé toute condamnation contre nous en portant la peine de nos péchés. Le croyant est en sécurité à cause de quatre aspects de l'œuvre du Seigneur Jésus. Voici ce premier aspect. Le Seigneur est mort pour nous. Il a pris sur lui la peine de nos péchés. Deuxièmement, le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité pour notre justification. Troisièmement, il est assis à la droite de Dieu. Il y est présentement, mes amis. Il est vivant. Avez-vous besoin de lui? Pourquoi ne pas faire appel à lui? Et quatrièmement, il intercède pour nous. Avez-vous prié pour vous ce matin? Vous auriez dû le faire. Si vous avez omis de le faire, le Seigneur Jésus y a pensé. Lui, il a prié pour vous. N'est-ce pas merveilleux? C'est à cause de ces quatre éléments de l'œuvre du Seigneur Jésus que personne ne peut accuser un élu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Ici, Paul mentionne tout ce qu'on peut imaginer. Est-ce que la tribulation pourra nous séparer de Dieu? Jamais. Le Seigneur Jésus ne laissera jamais faire cela. L'angoisse ou la persécution? Vous pouvez penser que Dieu vous a laissé tomber, mais ce ne sera jamais le cas. La persécution. Nous parlons ici d'une persécution légale, faite par l'État ou une puissance religieuse. Cependant, une telle persécution ne vous séparera pas de l'amour du Seigneur Jésus. La faim? La nudité? Le péril? Ou l'épée? Avez-vous remarqué que ces versets sont une biographie très brève de la vie de Paul? Il sait par expérience que ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus. Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Paul cite le psaume 44, verset 22. Mais C'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Ceci est un portrait effrayant des saints pendant l'ère de la grâce. Je pense sincèrement que c'est l'attitude des forces sataniques envers les enfants de Dieu, même aujourd'hui encore. L'histoire de l'Église le démontre clairement. Mes amis, si vous prenez position pour Dieu de nos jours, cela vous coûtera quelque chose. Avez-vous déjà vu un ou des animaux se faire égorger dans un abattoir? Le spectacle est dégueulasse. Bien des personnes qui voient cela pour la première fois sortent pour vomir. Mes amis, ce qui arrive à des saints de nos jours a de quoi nous rendre malades. Mais tout cela ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comment est-ce qu'une brebis à l'abattoir peut être plus que victorieuse? C'est un autre paradoxe de la vie chrétienne. Que signifie être plus que vainqueur? Cela signifie avoir le secours d'une autre personne qui obtient la victoire pour nous et qui ne permet jamais que nous soyons défaits. La victoire appartient au Seigneur Jésus, pas à nous. La vie victorieuse n'est pas la nôtre, mais la sienne. Versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifestant Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai l'assurance. Cela signifie que Paul le sait. La mort, elle ne peut nous séparer du Seigneur Jésus. En fait, elle nous conduit dans sa présence. Les premiers martyrs chrétiens disaient souvent en face de la mort, « Merci, vous allez me conduire en présence de mon Sauveur. » Vous ne pouvez pas faire de mal à une personne qui pense ainsi. La vie, souvent, il est plus difficile d'y faire face que de faire face à la mort, cependant. Les tentations, les échecs, les désappointements, les incertitudes, les souffrances ne nous sépareront pas de l'amour du Seigneur Jésus. Les anges, je pense que Paul parle des anges déchus, les dominations et les puissances, qui sont les ennemis spirituels des croyants. Les choses présentes sont les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons présentement. Les choses à venir sont tout ce qui nous arrivera dans le futur. Ni la hauteur, ni la profondeur, soit ces choses qui sont du domaine de l'espace et des forces occultes, ni aucune autre créature, peut-être n'importe quoi d'autre que vous voudriez ajouter à cette liste. Il n'y a absolument rien qui peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Mes amis, notre salut est une histoire d'amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Personne ne peut nous séparer de cet amour. Nous avons débuté ce chapitre avec aucune condamnation. Nous le terminons avec aucune séparation. Entre ces deux points, nous avons toute chose concourt au bien. Pouvons-nous améliorer cela, mes amis? N'est-ce pas merveilleux d'accepter le plan de Dieu pour notre vie? Voyez-vous combien précieux est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix? Ce sacrifice nous obtient un salut complet, de l'appel jusqu'à la glorification. Dieu sanctifie ceux qui répondent à son appel. Même Satan ne pourra pas porter d'accusation contre un élu au jugement dernier. Dieu nous verra couverts de la robe de justice de son Fils, la justice du Fils de Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant L'Épître aux Romains, chapitre 9, les versets 1 à 4.
Oh, merci beaucoup, Réjean. J'ai tellement aimé entendre qu'absolument rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Je le sais depuis 27 ans, mais j'aime encore l'entendre. J'aime encore le lire dans la parole de Dieu. Quelle assurance! Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Quand Jésus sauve une personne, il la sauve parfaitement et il la sauve éternellement. C'est pas merveilleux, ça? J'ai bien aimé aussi quand Régent a décrit une par une toutes les choses qui tenteraient de nous séparer de l'amour de Dieu, mais qui ne le pourraient pas. Il a mentionné la mort. C'est tellement extraordinaire de penser au fait que le jour où je vais mourir, je vais me retrouver dans la présence de mon Dieu pour l'éternité. Régent a mentionné aussi la vie. Parfois, je trouve ça un peu difficile de faire face à la vie avec ses épreuves, ses tentations, ses déceptions, ses souffrances. Mais j'ai déjà fait l'expérience à plusieurs reprises que ces choses ne font que m'approcher de Dieu plutôt que de m'en séparer. Il a mentionné aussi les anges. Il les a décrits comme étant des dominations et des puissances qui sont ennemis spirituels des croyants. Combien de fois j'ai eu à lutter contre le doute, contre les pensées négatives que ces ennemis ont essayé de mettre dans ma tête, mais Dieu m'en a toujours délivré. Il y a aussi les choses présentes, c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles je me trouve quotidiennement, puisqu'elles concourent tout à mon bien, elles ne font que m'approcher de Dieu. Il y a les choses à venir, mais Dieu me dit de ne pas m'inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Dieu ne m'a jamais délaissé dans le passé et je suis convaincue qu'il ne me délaissera jamais parce qu'il tient ses promesses. Régent a aussi mentionné la hauteur et la profondeur qui sont du domaine de l'espace et des forces occultes. Je sais que Dieu m'en protège en tout temps. Il l'a même fait pour moi dans le passé, alors que je n'étais pas encore une enfant de Dieu. Maintenant que je suis son enfant, j'ai la conviction que mon Papa du ciel, que mon Sauveur Jésus et que l'Esprit de Dieu qui vit en moi me protègent à ce niveau aussi. Et il a terminé en disant qu'aucune autre créature ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Mon ami, est-ce que tu expérimentes ceci dans ta vie? Sinon, eh bien, tourne tes regards vers Jésus qui veut te donner cette assurance. Reconnais que tu es un pécheur, que tu as besoin du pardon de Dieu et place toute ta confiance en Jésus seul, pour recevoir ce pardon et le don gratuit de la vie éternelle. Repens-toi maintenant. Change de direction à l'égard du péché. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et non seulement il va te donner la vie éternelle, mais il va te donner une vie abondante, même ici-bas. Toutes choses vont être nouvelles. Tout va être différent pour toi. Même les épreuves vont être plus faciles à traverser parce que tu vas mettre ta confiance en Jésus et qu'il va te soutenir, qu'il va te guider, qu'il va mettre la lumière sur ton sentier. Viens à Jésus maintenant. Jésus veut te sauver. Il veut te donner la vie éternelle. Saisis-la.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir, ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.